Bonjour Anne-Cécile.
Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine de l'environnement qui met le cap aujourd'hui sur un archipel d'îles nichées au cœur de l'océan Indien, les Maldives.
Et oui, 1200 îles coralliennes très vulnérables au réchauffement climatique et donc à l'élévation du niveau de la mer.
Je confirme que quelle que soit la hauteur de l'île, je fais confiance en mon Dieu. Le tsunami est une punition envoyée par Dieu. On ne peut pas échapper à la punition de Dieu. Donc je ne crois pas ce que disent les scientifiques. Je continue à croire ce que me dit ma religion.
Les Maldives sont menacées de disparition comme beaucoup d'autres îles basses des océans. Le tsunami de 2004, qui a été désastreux, a mis en évidence l'extrême vulnérabilité de ces îles qui s'étirent sur plus de 1000 km à travers l'océan Indien. Les Maldives, un reportage d'Anne Rioux à découvrir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
Imagine que la mer, si tu veux, c'est un grand terrain vague où il n'y a pas de mobs, tu vois. Et alors, dedans la mer, les poissons, ils sont bizarres, tu vois. Ils sont pas carrés, panés comme à la cantine. Ils ont des yeux, des nageoires.
Ça vous fait sourire, Anne Chahan, bonjour.
Bonjour.
C'est avec vous que nous allons décortiquer l'actualité environnementale. Aujourd'hui, une actualité que vous suivez de très près puisque vous êtes en charge des informations environnement à l'agence France Presse. Donc pour beaucoup de médias à travers le monde, vous êtes la première source d'informations sur cette thématique. Vous êtes combien de journalistes spécialisés dans cette thématique justement ?
Eh bien, depuis peu, nous sommes 5. Ça veut dire que l'augmentation de l'équipe a été phénoménale. Pendant longtemps, à l'AFP, l'environnement s'appelait la rubrique nature et elle était tenue par un monsieur d'un certain âge qui s'occupait principalement des activités de la SPA. Et puis elle est devenue, dans les années 90, avec la formation du GIEC, la rubrique environnement, on est passé de 1 à 2 et maintenant on est 5, on est 3 francophones et 2 anglophones.
Ce qui prouve que cette thématique prend vraiment de l'importance.
Elle est prise désormais très au sérieux. Ouais. On va sur les G8, on va sur les grands sommets internationaux. Je crois que tout le monde a compris qu'on ne pouvait pas séparer l'environnement, le devenir de la planète et celui de l'économie et la marche du monde au quotidien.
Alors justement, pour commencer notre petit tour de l'actualité, Arnaud, il y a le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui insiste auprès de la Chine pour qu'elle s'engage dans un accord international sur le climat.
Sans la Chine, on ne pourra pas arriver avec succès à un accord cadre international sur le climat. Mais avec la Chine, il y a d'énormes perspectives de parvenir à un accord à Copenhague, a déclaré vendredi le secrétaire général des Nations Unies. L'accord qui doit être engagé à Copenhague en décembre prochain doit impliquer tous les États dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et les nouvelles grandes puissances comme la Chine vont peser très lourd dans cette négociation. Anne Chahan, la Chine a beaucoup changé ces dernières années sur ces questions d'environnement, mais elle ne partage pas actuellement, en l'état, l'approche des pays historiquement responsables. Il y a une autre vision.
C'est différent. C'est le protocole de Kyoto. C'est la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques qui distingue la situation de la Chine et des grands émergents et des pays en développement général de celle des pays industrialisés qui, au nom de leur responsabilité historique, comme vous l'avez dit, ont dû prendre dans le protocole de Kyoto des engagements contraignants à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. La Chine, pas plus que l'Inde, le Brésil ou la Corée du Sud, n'y étaient contraintes. En revanche, dans le futur accord, ça a été arrêté à Bali, il est entendu que les pays industrialisés prendront des engagements contraignants et les grands pays en développement, on ne parle pas des pays les moins avancés, on ne va pas demander au Mali, mais en revanche la Chine, l'Inde, pour parler d'elle, entre autres, ce qu'on appelle aussi le Big Five, eux devront s'engager à conduire des actions qui vont leur permettre d'infléchir l'augmentation prévue de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et la Chine est tout à fait engagée dans ce processus. La Chine n'est pas autiste. Elle est elle-même exposée à de graves perturbations environnementales, des problèmes de sécheresse, de désert qui avancent. Elle mène au quotidien des actions déjà très concrètes. On dit toujours que la Chine ouvre chaque semaine une centrale à charbon, une nouvelle. Et en gros, chaque année, l'équivalent de la capacité de la Grande-Bretagne en énergie thermique au charbon. Mais dans le même temps, elle multiplie des villes qui sont fondées exclusivement sur le renouvelable. Elle multiplie l'éolien, les grandes centrales solaires. Simplement, elle ne bougera que quand elle aura un engagement ferme de la part des pays développés.
Alors, autre sujet dans l'actualité, alors que le débat justement sur le changement climatique agite nos leaders mondiaux, les peuples indigènes, eux, sont littéralement assis devant des bulldozers, non pas pour eux-mêmes, mais pour le bien de l'humanité entière. C'est Stephen Coril, directeur de Survival International, qui a fait cette déclaration aujourd'hui pour appuyer la démarche des Dongriyakond, qui est un petit peuple de l'état d'Odrissan en Inde, qui a envoyé un de ses représentants aujourd'hui à Londres, au siège de Vandata Resources, l'industriel qui veut exploiter leurs terres. Parce que leurs terres, c'est une colline qui est faite pour leur malheur de bauxite, le bauxite qui sert donc à fabriquer l'aluminium. Alors ils se battent depuis plusieurs mois pour défendre leur montagne sacrée. Survival a même soumis une requête urgente aux Nations Unies. Alors Anne Charon, c'est vrai que partout sur la planète, les peuples indigènes comme ça se battent ou sont victimes, parce qu'ils sont victimes de méga projets industriels qui détruisent leurs terres. Est-ce que vous suivez ces dossiers?
On le suit de fait parce que, par exemple, dans la négociation climatique internationale, ils sont toujours représentés, pas forcément très bien représentés, mais ils envoient toujours des délégués. Ils sont extrêmement présents, ils essaient de faire entendre leur voix. Et quand on assiste, par exemple, depuis 3-4 ans à la ruée sur les terres du Sud, très souvent, ce sont les peuples autochtones qui se voient déposséder leurs terres ancestrales. Alors, ils n'ont pas forcément de titre de propriété dessus à faire valoir. Sauf que si on les prive de ces terres, ils ont juste plus d'aucun moyen de subsistance. Donc ce sont des gens qui sont extrêmement vulnérables et pour leur malheur très souvent assis sur des tas d'or potentiels, des minerais, des ressources, forêts amazoniennes.
Oui, et puis c'est vrai qu'au-delà de la subsistance, il y a aussi la notion comme là de montagne sacrée, c'est-à-dire de racines.
C'est très souvent très imbriqué dans ces communautés. Le monde qui les entoure est un monde sacré, c'est les ancêtres et c'est la religion.
Alors, je vous emmène au Vietnam. À la fin de la semaine, la police de l'environnement de Hanoï a arrêté un taxi qui transportait en contrebande dans son coffre les restes d'un tigre congelé ainsi que 11 kilos d'os de tigre. On ne sait pas encore l'origine de ce qu'on suppose être un trafic organisé, mais c'est la troisième prise dans l'année de ce type, dans un pays qui abrite encore une cinquantaine de tigres très protégés. L'espèce étant classée sur la liste rouge de l'UICN comme espèce menacée de disparition, il resterait environ 4000 tigres vivants dans le monde. Anne Charon, de votre point de vue, ces trafics d'espèces sauvages continuent de bien se porter malgré toutes les réglementations que l'on tente de mettre en place.
Je me demande juste ce qu'on fait avec 11 kilos d'os de tigre.
Je ne sais pas si ça se fait.
Je ne sais pas quelle vertu
ça, leur prête.
Mais c'est vrai qu'on ne voit pas les choses bouger là. On a l'impression que tous ces trafics continuent malgré.
Je pense qu'il ne faut pas non plus être naïf. Il existera toujours des braconniers, il existera toujours des trafiquants de toutes sortes. Le fait peut-être d'y prêter davantage d'attention et de renforcer la police sur ces trafics fait qu'on en trouve davantage. Mais on ne voit pas pourquoi tout à coup l'homme deviendrait vertueux. On continue d'assassiner des bébés gorilles pour leurs mains. Si le tigre a des vertus, quelles qu'elles soient, il sera toujours pourchassé.
Mais c'est un peu un échec du travail international parce qu'on a quand même beaucoup parlé de ces tigres, beaucoup parlé. Au Vietnam, il n'y en a plus qu'une cinquantaine. Il y a eu des opérations extraordinaires, la CITES, l'UICN, etc., pour un résultat qui...
C'est pas forcément un échec international, c'est aussi la difficulté localement. Quand vous avez des villages indiens où une peau de tigre va rapporter à une famille de quoi vivre pendant 10 ans, il faut trouver une alternative.
Faire la peau.
David Sicard dans C'est pas du vent sur RFI. Et maintenant, on s'intéresse à l'actualité environnementale d'une région du monde. Aujourd'hui, direction l'Afrique.
Bonjour Caroline Langlois.
Bonjour.
Alors, l'organisation humanitaire Oxfam s'inquiète dans un rapport publié en février pour le Ghana. Le pétrole aura-t-il raison de l'équilibre démocratique au Ghana ?
Oui, la malédiction, c'est ainsi qu'Oxfam qualifie la découverte de l'or noir dans ce pays qui fait figure de modèle démocratique sur le continent africain. Une malédiction que connaissent de nombreux pays comme l'Angola et le Nigeria. Alors, tous deux se disputent la première place de producteurs de pétrole et enregistrent une croissance à deux chiffres depuis des années, mais douloureux revers de la médaille, le taux de mortalité chez les moins de 5 ans est le deuxième plus élevé au monde en Angola, et le Nigeria connaît une explosion de violence dans le delta du Niger, ce qui fait craindre aux associations comme Oxfam que l'exploitation du pétrole au Ghana, qui devrait débuter fin 2010, ne s'accompagne d'une grave détérioration des conditions sociales. Ce pays où 80% des 23 millions d'habitants vivent avec 2 dollars par jour va en effet devoir gérer subitement l'arrivée de milliards de dollars. Le Fonds monétaire international avance même le chiffre de 20 milliards de dollars pour la période 2012 à 2030. Et ce que regrette l'association Oxfam, c'est d'ores et déjà un manque de transparence, puisque les contrats pétroliers conclus jusqu'à présent sont toujours tenus secrets.
À suivre donc. À Madagascar maintenant, les associations organisent des concours de pêche, notamment dans la région de Vohémar, au nord-est de l'île, pour sensibiliser les villageois à la sauvegarde des ressources halieutiques.
Oui, et ces concours attirent de nombreux participants, et pour cause. La cagnotte est alléchante, 290 euros environ à la clé pour le gagnant. Mais la condition pour participer à ces concours, organisés chaque année depuis 2005, c'est de suivre une formation mise en place par le ministère de l'Agriculture malgache. Des formations de 6 mois avec un objectif, inciter les pêcheurs à respecter les normes et les ressources, comme l'explique Simon Rabearinso, le directeur de la pêche au ministère de l'Agriculture.
Notre ministère a pris comme objectif, il y a 3 ans passé, que la professionnalisation de la petite pêche, c'est-à-dire la professionnalisation de la pêche traditionnelle. Une des actions pour atteindre cet objectif, c'est l'information des pêcheurs à chaque région littorale. Pour compléter tout cela, nous avons organisé une descente sur les villages, quoi. Après la formation, on a eu des impacts positifs. Mais surtout, l'objectif principal de l'administration, c'est de responsabiliser les pêcheurs sur la gestion des ressources. Pour atteindre cet objectif-là, mieux de faire comprendre, d'informer les pêcheurs. Voilà les textes, voilà les procédures. Ils étaient conscients que c'est les pêcheurs devrait être le premier responsable de la gestion des ressources.
Ces formations ont été suspendues depuis 2008 après les événements politiques qui ont ébranlé l'île, ainsi par les mauvaises conditions aussi d'accès aux côtes. Tout ça va reprendre en septembre.
Oui, c'est une bonne nouvelle car selon le ministère, près de 60% des pêcheurs de Vohémar, donc où sont menées ces formations, respectent maintenant les saisons de pêche contre environ 30% dans le reste du pays.
Et pour finir, Caroline, une bonne nouvelle également au Kenya où le ministre des Ressources minérales et de l'Environnement, John Michuki, a annoncé un programme de plantation d'arbres à l'échelle nationale sur 20 ans.
Ouais, le but est de réduire les effets du changement climatique et d'encourager les efforts de conservation de l'environnement dans le pays. Car selon le ministre, l'économie kényane est dépendante du climat. Le changement climatique a selon lui des effets néfastes sur les secteurs de l'énergie, du transport, du tourisme, de l'eau et de l'agriculture. Plus de 7,5 milliards d'arbres devraient ainsi être plantés pour un montant de 20 milliards de dollars.
Merci Caroline Langlois.
C'est pas du vent, @rfi.fr.
Anne Chaon, déjà une petite réaction peut-être.
Mais je les trouve drôlement vertueux, moi, les pêcheurs malgaches. Et je m'interroge sur la possibilité d'en faire autant avec les pêcheurs européens, notamment les thoniers en mer Méditerranée, les pêcheurs d'anchois. Et pourquoi pas? Je t'ai bien compris, l'idée, c'est de les aider à gérer la ressource à long terme. Et franchement, quand vous entendez parfois les représentants des patrons pêcheurs, vous dites qu'ils sont juste en train de creuser leur tombe à grande pelletée. Les quotas de thon, ils sont dépassés à même pas au bout de 2 mois de saison. Et franchement, c'est vraiment une piste à explorer.
Un bel exemple.
Alors, Anne Chaon, comme vous êtes, on le disait au début de cette émission, journaliste environnement à l'AFP, vous suivez toutes ces questions de près. Est-ce que vous avez vu, donc, vous disiez, vous êtes passé de 1 à 5 journalistes à l'AFP sur ces sujets. Comment est-ce que vous voyez cette thématique évoluer? C'est vrai qu'on a l'impression, nous en tout cas ici dans cette émission, partout dans le monde, il y a un virage qui est en train de se prendre, plus ou moins habilement. Mais...
Le fait qu'RFI consacre une heure d'antenne chaque jour à l'environnement me paraît déjà être le témoignage de quelque chose de sérieux. Et surtout, on voit que l'environnement est sorti du ghetto associatif, que c'est devenu une thématique majeure des dirigeants, y compris au niveau international. Quand le G8 se réunit depuis 3 ans, on peut dire qu'en gros, il consacre 2 jours sur 3 de ses travaux au climat. Le G20, en septembre, est censé apporter des propositions de financement du futur accord de Copenhague. Nos dirigeants, on l'a vu en France émerger au moment de la campagne présidentielle de 2007, ont pris également la question au sérieux, pas toujours à bras-le-corps, mais quand on pense quand même à ce qu'était le ministère de l'Environnement il y a quelques années, qui était une espèce de ministère croupion, et qu'aujourd'hui, il recouvre à la fois l'énergie, les transports, la mer... l'aménagement du territoire, je crois que oui, les choses ont considérablement évolué.
Et de votre point de vue, alors justement, comment ça évolue à l'intérieur? Quelles sont les questions qui bougent le plus à l'intérieur de cette thématique environnement? Parce qu'on parle beaucoup d'énergie, mais on a l'impression que, par exemple, les questions de biodiversité, ben, c'est un peu le parent pauvre. De biodiversité.
Très évidemment, c'est évidemment le changement climatique qui occupe le devant de la scène, parce que quand on parle de changement climatique, on peut le décliner à l'infini sur les ressources en eau, l'accès aux terres, la capacité ou non qu'auront les peuples d'Afrique, d'Asie à rester chez eux ou bien à devoir migrer. Donc c'est évidemment le climat et toutes les problématiques énergétiques qui l'entraînent, qui occupent le devant de la scène. On voit tout doucement émerger quand même, avec difficulté. L'accouchement est difficile, mais la biodiversité, la protection de la diversité, de la faune, de la flore. Et je vous disais juste avant qu'on commence l'émission, le G8 environnement à Syracuse, le G8 des ministres de l'environnement a adopté une charte sur la protection de la biodiversité, et le Brésil a réussi à faire inscrire au programme du futur accord climatique la protection de la biodiversité. Mais ce sera plus lent parce que la biodiversité à ce jour n'a pas de prix.
Ouais. On s'est dit que la situation est quand même globalement très mauvaise et ces décisions avancent quand même relativement doucement, même s'il y a un élan quand même important là, actuellement.
D'abord, je pense que le temps climatique, le temps environnemental est décalé par rapport au temps politique. Donc, à l'échelle nationale, pour chaque gouvernement, il faut un véritable courage pour imposer la protection d'un territoire, d'une espèce, imposer une diminution de la consommation d'énergie. Par ailleurs, quand on parle d'accord international, ce serait faire du poujadisme que de penser qu'on peut raisonner à 192,5. Il y a 192 pays aux Nations Unies. Et la gageure, c'est d'arriver à les faire parler d'une seule voix. Ça ne peut pas se faire en une nuit. Et c'est vrai que parfois la négociation paraît très lente, c'est parfois désespérant. En réalité, chaque petit pas amène vers une issue qu'on espérera positive.
Et on verra justement si ça pourra se faire en 15 jours à Copenhague en décembre prochain. Merci Anne Chaon d'être passée dans cette émission. On revient juste après un bref rappel de l'actualité. Nous partirons donc aux Maldives avec un reportage d'Anne Rio. A tout de suite.